Et où on me disait mais que ce n'était pas un sujet d'étude, ce n'était pas un objet légitime, ça n'intéressait personne, c'était du journalisme, etc. Donc je suis vraiment très contente et je remercie Caroline d'avoir pris l'initiative d'organiser cette double journée. Alors la question, du coup, pour moi, pour cette introduction, c'est ce que trouble la violence politique des femmes. La violence, d'une manière générale, la violence des femmes, c'est un tabou. C'est un double tabou d'abord, et c'est extrêmement important de le noter, de le souligner, c'est que c'est une violence qui est à rebours de l'économie générale de la violence, dans un monde où le patriarcat fait que les hommes ont le monopole symbolique et réel du pouvoir et de la violence, donc à refuser toute symétrie. Et puis c'est également un tabou pendant, ça a été en tout cas longtemps un tabou dans l'univers de la recherche sur le genre ou sur les femmes, parce que l'idéal féministe qui prévaut est un idéal de non-violence, et que donc poser la question de la violence des femmes, c'est risquer de contredire en tout cas les valeurs fondamentales qui sont mises en avant par la plupart des courants féministe, hein, avec la fameuse formule de Benoît de Groult, le féminisme n'a jamais tué personne. Pourtant, c'est un tabou, mais il est nécessaire de mener des recherches sur la violence des femmes d'un point de vue féministe, en affirmant le refus très net de symétrisation avec la violence des hommes. Ça, je pense que il faut sans arrêt le rappeler, parce que les tentations de certains sont assez féroces en ce domaine, et puis parce qu'il est important de produire des savoirs sur ce domaine. Alors il y a eu, et on s'était déjà croisés, plusieurs d'entre nous ici autour de cette table, au moment du colloque « Penser la violence des femmes » qui a donné lieu ensuite à la publication dirigée par Colline Cardy et Geneviève Pruvot. Ce colloque et cet ouvrage ont été, je reprends la formule d'Arlette Fage, un événement intellectuel. Penser la violence des femmes, ce n'était pas chercher à la justifier, mais c'est surtout essayer d'analyser ce que la violence des femmes fait à la domination masculine. D'avoir une approche dénaturalisée, socio-historique de la violence, de produire des catégories pour penser et des mots pour dire la violence des femmes. Cette violence des femmes, elle est prise dans un double océan, un océan de discours sur les femmes, qui n'est pas le discours des femmes elles-mêmes, hein, mais de discours sur les femmes violentes, et l'océan de silence de ces actrices de la violence. Donc la question de la problématisation dans le temps et dans l'espace est une chose dont nous allons parler au cours de ces deux jours. Nous allons probablement aussi discuter de la manière dont l'accès au pouvoir de violence est une forme d'accès aussi au pouvoir. Nous allons aussi probablement toucher du doigt de manière récurrente le poids des stéréotypes et de leur relative permanence, qui entraîne des regards hypertrophiés, parce que il y a des enjeux épistémologiques extrêmement forts. On pourrait, comme le notait Arlette Farge dans la préface de l'ouvrage « Penser la violence des femmes », partir d'un constat, sans autre présupposé qu'une femme violente est une femme violente, et que tout historien ou sociologue doit saisir ce fait au sein de sa discipline et du contexte dans lequel se passe l'événement. Je poursuis la citation. « Il n'y a aucunement à décider que toute femme s'émancipe par la violence, ni à dire que, violente comme les hommes, elle porte dès lors en elle des valeurs féministes. » C'est des questions dont nous allons, je pense, parler. Alors, il est d'usage, quand on fait une introduction, de définir les termes du sujet qui nous intéresse. Je vais non pas faire une pirouette pour me défausser, mais utiliser la formule de Colline Cardy pour définir la violence, et en particulier la violence des femmes. C'est une savonnette. C'est une savonnette parce que les travaux de philosophie politique, notamment d'Yves Michaud, nous disent que est violent ce qui est considéré comme violence. C'est-à-dire que la violence, ce serait un moyen avec une dimension performative. Et donc, il y a des enjeux à nommer la violence pour produire des catégories, ou ne pas nommer et ne pas produire de catégories pour penser la violence. Dans cette définition de la violence des femmes, il y a une difficulté intellectuelle qui est celle de dépasser le masculin comme point de référence, parce que rester avec ce masculin comme point de référence, ça veut dire qu'on considère la violence des femmes comme quelque chose d'original, comme une exception, en tout cas presque comme une bizarrerie, et donc du coup qui n'est pas traitée avec la même rigueur et avec d'autres filtres que la violence des hommes. Pour définir aussi l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, la question de l'historicité, et c'est pas parce que je suis historienne que je m'accroche à mon dada, mais cette question de l'historicité de la violence et de ses qualifications est fondamentale, parce que la violence, ce n'est pas une pulsion anhistorique, intemporelle et universelle. Sa définition dépend des contextes dans lesquels elle se produit. Certains actes vont être considérés dans certaines sociétés ou à certains moments comme violents, d'autres pas. Donc, une catégorie qui n'est pas linéaire, et la question, c'est qui définit ? On aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que c'est le droit qui définit ? Droit national, droit international ? Est-ce que ce sont les acteurs et actrices, victimes ou auteurs de violence ? Est-ce que ce sont les chercheurs qui définissent ce qui est violent ou pas ? Nous allons avoir, je pense, un certain nombre d'éléments sur ce sujet. En tout cas, il y a trois termes qui sont au cœur de cette définition, enfin en tout cas qui sont une mise en traduction des tensions autour de la définition de la violence politique. Nous, chercheurs, nous utilisons majoritairement cette expression de violence politique. Les activistes utilisent généralement des termes comme lutte armée ou guérilla. Je le dis de manière très résumée. Et puis, il y a la troisième catégorie, qui est en fait celle dans laquelle nous baignons et qui est omniprésente, qui est une catégorie au départ morale, au départ une injure politique avant de devenir une catégorie pénale, c'est la catégorie terrorisme. Le terrorisme, je reprends la formule d'Isabelle Sommier, c'est une notion spongieuse. C'est-à-dire que quand on parle de terrorisme, on a plus ou moins une idée de ce dont il est question, mais avec des définitions extrêmement variables selon où on se situe par rapport à la question de la violence. Et en tout cas, ce n'est pas une catégorie opératoire pour les sciences sociales. C'est un terme qui polémise, qui brouille aussi les frontières et qui jette l'anathème sur celui ou celles ou ceux qui sont désignés comme tels. Et il y a une dimension qui souvent aussi échappe à l'analyse quand on parle de terrorisme, c'est la question de la rationalité des actrices et des acteurs d'une violence qui n'est pas légale. Donc, je pense qu'à l'issue de ces rencontres, on aura des éléments de contribution à ces réflexions, avec des matériaux et des sources aussi différents selon les disciplines auxquelles nous appartenons, que ce soit l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la criminologie, j'espère que je n'ai oublié aucune discipline représentée, la philosophie. Il y a, et notamment la criminologue féministe québécoise Colette Parent l'a souligné, un poids, un prisme déformant de la criminologie classique aussi pour penser la violence des femmes. Les historiennes, et je pense à l'ouvrage pionnier de Sandrine Dauphin et Arlette Farge en 1997 de la violence et des femmes, qui était le premier ouvrage à poser pas seulement la question des femmes actrices de la violence, hein, mais aussi des femmes victimes de violence, mais en tout cas de croiser ces deux dimensions, et qui avait donné lieu à une polémique assez forte. Mais ce qui ressortait d'une manière générale des travaux des historiens et des historiennes, ce sont surtout des femmes, c'est que les matériaux que privilégient les historiens, c'est-à-dire les archives, sont généralement remplis d'angles morts qui invisibilisent les femmes et la participation des femmes à des événements violents ou à des mobilisations armées. On a et ce programme en rend compte des terrains géographiques différents qui vont être représentée avec une prédominance de ce qu'on pourrait appeler, pour aller un peu vite, la gauche révolutionnaire, qu'elle soit nationaliste, qu'elle soit anti-impérialiste, notamment. Et c'est effectivement sur ces terrains-là que les premiers travaux sur la violence politique des femmes ont été menés. Les travaux de Maritza ont été pionniers effectivement au début des années 2000 sur ce sujet pour l'Amérique latine, Camille Boutron qu'on accueillera tout à l'heure, mais aussi des travaux sur la Palestine, sur la Suisse, sur l'Allemagne, la France, l'Italie. Enfin, forcément, j'oublie des gens et donc je vexe des gens et je m'en excuse par avance. Plus récemment, des travaux qui ne s'inscrivent pas dans un espace géographique donné, mais plutôt dans un espace militant, notamment avec les recherches de Francis Dupuy Puy-Déry et d'Emeline Fourmand sur les formes de Black Bloc qui s'observent donc au cours de rassemblements anticapitalistes, pour le dire un peu vite. En tout cas, ce qui ressort de tous les travaux qu'on connaît aujourd'hui et qui sont à la fois foisonnants et en même temps injustement méconnus, c'est que ce qui se joue dans l'accès des femmes à la violence politique, c'est quelque chose qui rejoue aussi les tensions qui ont été analysées dans l'accès des femmes à la violence légale. Les travaux notamment de Geneviève Prévost sur l'entrée des femmes dans la police viennent en fait dessiner une forme de parallèle avec les résistances et les tensions. Ce qui fait, moi, ce qui me fait penser que la tension n'est pas dans le fait d'accéder à une violence légale ou non que se joue la tension, mais dans le fait d'être considéré comme légitime pour accéder au pouvoir de violence, qu'il soit légal ou illégal. Et dans le cas spécifique de la violence politique des femmes, ce qui se joue historiquement, c'est autour de la définition de la citoyenneté. Le fait de s'affirmer comme sujet politique à part entière, alors on dirait aujourd'hui, on pourrait poser la question, est-ce que accéder au pouvoir de violence pour des idées, par des femmes, c'est une démarche d'empowerment? Est-ce que, comme les historiennes sous la Révolution française, et je pense notamment aux travaux de Dominique Godinot, ont démontré que cette hantise des femmes en armes était aussi une hantise des femmes citoyennes et donc avec une capacité de décision politique au même titre que les hommes. Donc cette question des femmes comme sujet politique dans des contextes temporels ou géographiques différents, je pense, mérite d'être mise en lumière parce que, on va le voir ici, parfois les femmes sont mineures en droit, ou alors elles sont égales en droit, mais mineures en pratique, et la violence politique qu'elles peuvent exercer vient mettre en tension ce rapport de domination. Ce qui fait que le genre, comme outil d'analyse, permet de penser justement cette violence des femmes et cette violence politique qui apparaît encore aujourd'hui sous le régime un peu du déni d'antériorité comme une éternelle énigme sociale pour questionner la normativité et les régulations sociales dans ce double jeu des normes pénales et des normes sexuées. Et le programme de ces deux jours est traversé par cette double tension normes pénales et normes sexuées, avec peut-être le vœu naïf de ma part de réussir à ne plus être surpris ou surprise par la violence politique des femmes, en tout cas de ne pas s'interroger sur ce qu'il y aurait de féminin ou non féminin dans le recours à la violence. Combien de temps il me... D'accord. Alors, la violence dont il est question, la violence politique dont il va être question ici, elle se décline, je l'ai dit, sur plusieurs terrains géographiques, plutôt sur l'époque contemporaine, dans des dynamiques de radicalisation menées au nom d'un idéal politique, qu'il se qualifie comme révolutionnaire ou non, en tout cas d'une dynamique protestataire pour changer le monde, en tout cas changer le monde dans lequel les actrices de cet engagement violent vivent, et qui vont faire le choix de penser la violence comme un outil politique. Alors, ce sont des mouvements qui peuvent mobiliser des hommes et des femmes, parfois uniquement des femmes. On pourra poser aussi la question la mixité ou de la non-mixité de l'exercice de la violence politique et de ce que ça peut avoir comme conséquence. Mais ce qui est certain, et c'est ce qu'on observe souvent quand on fait un petit peu une analyse des médias ou de la des représentations sur les femmes actrices de la violence politique, c'est que ce sont les femmes qui concentrent les regards. Il y a cette prégnance de l'impensé masculin, si je prends l'expression donc médiatique consacrée qui est celle de femme terroriste, on n'utilise pas l'expression homme terroriste, on va dire un terroriste, mais on dit rarement une terroriste, on va ajouter le fait que c'est une femme, donc comme une spécificité, une étrangeté qu'il faudrait signifier. Et donc cette féminisation, entre guillemets, du terrorisme apparaît comme un phénomène sans cesse nouveau qui se confronte donc à un déni d'antériorité récurrent. Et il y a, et c'est ce qu'on observe d'une manière générale dans la littérature sur le sujet, trois grandes tendances sur la manière dont sont perçues ces actrices de la violence politique, quel que soit le terrain et l'époque qui les concerne. Cette première manière, c'est celle de nier la capacité des femmes à être violentes. Donc ce déni d'antériorité, cette négation qui est un classique de la réaffirmation de la différence des sexes et qui réaffirme donc des stéréotypes sexués traditionnels de femmes du côté de la douceur, de la beauté aussi, ou également du côté de la jeunesse ou de l'enfance, de l'immaturité, avec un intérêt tout particulier porté à leur apparence physique et à leur corps, avec parfois d'ailleurs une utilisation érotisée, que ce soit par les mouvements eux-mêmes auxquels elles appartiennent ou par les médias ou les forces de police, de les réassigner à un rôle traditionnel, de s'intéresser à leur moralité, à leur vie intime, à leur vie sexuelle, qui évacue donc totalement la dimension politique de leur action et qui même passe sous silence leur engagement violent. La deuxième des grandes tendances de ce qui ressort de l'historiographie, c'est la disqualification de la dimension politique de la violence. Alors, d'une manière générale, la violence politique cristallise des tensions, et c'est un peu comme s'il fallait se positionner par rapport à l'objet, dire si on est pour ou contre, alors qu'on se pose beaucoup moins cette question pour d'autres sujets, mais... La disqualification politique du côté des femmes, elle s'appuie sur des registres spécifiques qui sont communs à la violence des femmes d'une manière générale, c'est-à-dire la relativisation sentimentale, l'explication de l'engagement par un modèle hétérosexuel à sens unique qui ferait des femmes des amoureuses aveuglées par leurs sentiments pour un homme, indépendamment du discours ou des propos que peuvent tenir les actrices de cette violence. Et puis le deuxième mécanisme de disqualification, c'est un registre plutôt médical ou de pathologisation qui consiste à traiter ces actrices de la violence politique comme des folles, comme des perverses. Là, on retrouve notamment les discours médicaux analysés pour le 19e siècle par Yannick Ripaz sur la dangerosité supérieure des femmes, leur côté incontrôlable, déchaîné, avec cette idée pour la violence politique que des femmes en armes sont particulièrement dangereuses et qu'elles incarnent, outre une violence incontrôlable, un désordre moral lui aussi incontrôlable, avec les figures de l'ange exterminateur qui sont généralement mobilisées. Et puis la troisième dimension qu'on retrouve aussi dans l'historiographie, dans la bibliographie, c'est l'amalgame qui peut être fait entre terrorisme, je mets des guillemets au terme, et féminisme, avec cette idée que la violence politique des femmes renverse l'ordre des sexes. Et pour cela, on mobilise des figures mythologiques sur le mode des boucles référentielles, avec cette omniprésence de la figure des Amazones. On aura probablement l'occasion de parler d'elle à plusieurs reprises. En tout cas, le fait de faire cet amalgame volontaire entre... féminisation de la violence politique et féminisme, c'est une manière de rejouer aussi la guerre des sexes. C'est une manière aussi de jeter l'anathème sur les mouvements féministes, sur le mode de l'excès, hein, l'idée de, des revendications d'émancipation ou égalitaire des femmes sur un registre de l'excès qui les déshumanise. Dans cette thèse de l'excès, hein, le féminisme déshumaniserait les femmes et en ferait des individus asexués particulièrement dangereux, avec donc un féminisme pris comme un bouc émissaire et relayé par les discours médicaux, les discours d'experts, notamment au moment des procès de certaines de ces militantes, qui consistent à dire que le recours à la violence et l'exercice de la violence politique par des femmes revient à mettre en pratique une revendication égalitaire démesurée. Ce qui me fait dire au final que cette assimilation entre émancipation des femmes et violence politique traduit un fond d'anxiété chronique, on pourrait dire, entre ce désordre social et ce désordre sexué avec lequel on considère la violence politique des femmes. Alors, ce qu'on peut espérer interroger aujourd'hui, c'est à la fois ce double mouvement d'occultation et d'euphémisation de la violence politique des femmes, leur déresponsabilisation, la question de l'émancipation, mais aussi la question de l'exotisation de la violence des femmes, peut-être sur des territoires supposés lointains, de les interroger à partir des discours produits sur ces militantes, mais aussi à partir des propos de ces femmes elles-mêmes, d'analyser peut-être des trajectoires dans une perspective prosopographique, d'analyser des pratiques et notamment les circulations internationales de pratiques de violence ou de théories aussi sur le recours à la violence, analyser aussi donc leur représentation pour faire de la violence politique des femmes un véritable objet pour les sciences sociales et un personnage socio-historique. Et puis, dernière dimension, et comme ça je tiendrai mon temps, c'est d'essayer d'analyser au-delà des discours qui font l'amalgame violence politique et féminisme, d'analyser le rapport des mouvements féministes eux-mêmes à la violence politique des femmes, d'analyser les filtres qui sont posés sur la violence politique des femmes, sur la parole et les actes de ces militantes, analyser aussi les mécanismes de régulation sociale, qu'il s'agisse des institutions pénales, des autorités politiques, mais aussi des organisations violentes auxquelles ces femmes appartiennent, et puis donc analyser en creux le rapport des organisations violentes à la violence politique des femmes, que ces organisations soient mixtes ou non mixtes. Cette question de la non-mixité aussi est une piste, je pense, fort féconde à explorer. Donc je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà été, je pense, suffisamment bavarde. En tout cas, je voudrais redire le plaisir que j'ai à être ici aujourd'hui et à remercier encore une fois Caroline d'avoir concocté ce programme que je ne pensais vraiment pas il y a 10 ans pouvoir être possible un jour en France. Donc, merci.